Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et alors ce matin, on va faire un focus sur un animal qui n'a pas forcément la cote et pourtant il s'agit du putois. Faut dire qu'avec un nom pareil, on peut comprendre qu'il soit un peu mal aimé. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, vous êtes naturaliste. Vous êtes également administrateur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Cette association est d'ailleurs en train de porter un dossier auprès du ministère de l'Environnement pour demander la protection du putois. Pourquoi le putois a-t-il aussi mauvaise réputation ?
Déjà, vous l'avez dit, son nom quand même, ça commence
ça
très mal
pas.
Pour lui.
C'est vrai.
Ça n'aide pas. Alors, il y a en fait tout un imaginaire autour de ces animaux qui sont mal aimés parce que d'abord, on pense qu'ils sont des puants, c'était leur dénomination il n'y a pas si longtemps encore. Les putois, en fait, d'ailleurs, ils ont effectivement des glandes odoriférantes qui sont assez développées, mais qui leur servent à finalement communiquer entre eux. Et ça leur sert à émettre des signaux à distance pour éviter de se bagarrer et de se blesser. Donc finalement, c'est une bonne technique. Par contre, ça fait qu'on ne les aime pas trop. Et en plus, comme ce sont des petits carnivores qui sont souvent considérés comme des concurrents des humains...
À quel titre ?
Eh bien, parce que ce sont des prédateurs, donc ils se nourrissent de petits animaux sauvages. Et parfois, dans l'histoire humaine en tout cas, on a pensé que ces animaux pouvaient concurrencer les humains quant à la capture des gibiers, par exemple, de la prédation. Donc concrètement, parfois.
Et est-ce que c'est vrai ?
Alors,
ils mangent quoi, les putois ?
Ce sont des carnivores, donc ils mangent essentiellement des petits rongeurs, des mulots,
oui.
Des souris.
Donc ça, c'est plutôt utile.
Bah oui, c'est très utile aux agriculteurs. Parfois, ils ont le malheur, mais c'est assez rare en fait, de s'en prendre, par exemple, à des poules dans les poulaillers, mais en fait c'est même très 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 rare, on les confond avec d'autres animaux comme les fouines, et on les accuse en fait injustement de causer des dégâts aux activités humaines. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ils sont considérés comme nuisibles officiellement, ce qui est une aberration, et c'est pour ça donc que nous étions au ministère de l'écologie encore il y a quelques semaines, pour essayer de porter cette demande, qui est de changer le statut réglementaire du putois, qu'il passe du statut nuisible qui est aberrant, à un statut d'espèce protégée, parce que l'espèce, en plus d'être totalement inoffensive, est en danger.
Alors, cette espèce est en danger parce qu'il y a de moins en moins d'individus. Est-ce qu'on est capable de les recenser ? Ça ne doit pas être simple de connaître la population de putois dans notre pays.
C'est très très compliqué parce qu'ils sont nocturnes, ils sont discrets. En général, on les voit une fois qu'ils sont morts sur la route parce que malheureusement pour eux,
ils sont écrasés. À quoi ça ressemble un putois pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément en tête l'allure du putois ?
On pense parfois que ce sont des grands animaux. En fait, non, c'est beaucoup plus petit qu'un chat. Assez bas sur pattes, et ce sont les ancêtres sauvages des furets. Donc tout le monde voit à peu près à quoi ressemble un furet,
oui.
Un putois c'est pareil, mais avec un pelage qui est caractéristique, brun sombre, avec un masque blanc sur la tête, qui est tout à fait typique et assez rigolo. Ils ont le tour de la truffe qui est blanc, du blanc autour des yeux et du blanc autour des oreilles, ils ont vraiment un masque de clown.
Et donc est-ce qu'on sait combien il y en a encore en France aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une estimation ?
Quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait très rare, surtout quand on regarde la tendance historique, puisque encore dans les années 50, il y avait peut-être 1 million de putois, ou en tout cas plusieurs centaines de milliers. Donc la chute est assez dramatique. Et on essaye de...
Comment on fait le recensement ?
Alors il y a simple, plusieurs méthodes. Il y a à la fois tous les réseaux naturalistes spécialisés dans les régions avec des gens qui essayent de mettre en place des protocoles, qui font des comparaisons, par exemple, d'animaux écrasés sur la route entre une année et une autre. Et puis il y a des recensements qui sont faits aussi par les services de l'État, par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui notent aussi les fois où ils observent ces animaux. Et en fait, à partir de tout un mélange de calculs, à partir de toutes ces données, on est capable de dire que la tendance des populations est à la baisse.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui est constaté à la fois par le réseau naturaliste, écolo, on va dire, et puis à la fois par les services de l'État. Donc tout le monde est d'accord sur le constat.
Et où trouve-t-on des putois ?
Ils vivent à peu près dans toute la France, sauf la pointe sud-est, mais de façon très rare dans chaque secteur. Et dans les campagnes qui sont encore assez bien préservées, donc il faut qu'il y ait des haies, des bosquets, un paysage assez diversifié, une agriculture en mosaïque. Et en particulier, ils aiment beaucoup les zones humides, donc tout ce qui est marais, les bords de rivières, les bords d'étangs. Or, ce sont des milieux naturels qui sont de plus en plus menacés. Les zones humides sont asséchées, les haies sont arrachées. Et c'est aussi ce qui fait que les putois disparaissent.
Vous pouvez nous expliquer un peu comment vivent ces petits animaux ? On a bien compris, ils ont une activité nocturne. Ça ressemble à quoi alors la vie d'un putois au quotidien ?
Alors la vie d'un putois au quotidien, c'est se lever à la tombée de la nuit et essayer d'arpenter son territoire pour chercher à manger. Donc ils vont explorer, comme ils sont assez bas sur pattes, leur truc à eux, c'est un peu de fureter, d'où les furets, parce qu'ils se faufilent dans les interstices, ils vont essayer de capturer des rongeurs dans leur terrier, parfois des lapins dans leur terrier. Ils vont essayer de marauder, de chercher par-ci par-là des proies, et puis en même temps de défendre leur territoire contre d'autres putois, parce que ce sont des animaux qui sont solitaires. Chaque mâle a un territoire qu'il défend contre les autres mâles, et les femelles, c'est un petit peu pareil. Et puis, à la période de leur production qui commence maintenant avec la fin de l'hiver, eh bien évidemment, les mâles vont se mettre en quête de femelles et en fait, ils ne vont pas vivre en couple très longtemps. Ensuite, chacun reprend sa vie solitaire et la mère élève seule ses petits. Et puis les petits, en fin d'été, ils s'émancipent et le cycle continue comme ça.
Merci beaucoup pour toutes ces explications sur le putois. J'espère que ça aura permis, justement, en le connaissant mieux, de l'apprécier davantage. Et on espère également que votre dossier sera entendu pour préserver au mieux cet animal.